Cette année, nous avons choisi pour thème de ces cinquièmes rencontres d'Averroès le thème frontières et passages. Et comme toujours, trois tables rondes pour explorer ce large thème. La première des tables rondes sera plus philosophique et aussi plus historique, toujours sur le temps long. Et elle a pour titre le passage des Lumières. Alors, j'aimerais vous présenter mes invités. À ma droite, Mme Leïla Eman, qui est professeure de civilisation française à l'Université du Caire et qui est spécialiste du XVIIIe siècle. Monsieur Robert Mondran, qui est spécialiste de l'Empire ottoman, qui est professeur émérite à l'Université de Provence et qui a écrit, vous le verrez en sortant, tant de livres sur l'Empire ottoman. Monsieur Mohamed Arkoun, qui est philosophe, islamologue et qui a fait un grand travail sur la critique de la raison islamique. Et enfin, Alain Delibera, avec qui ces rencontres finalement ont été un petit peu inventées, ont été conçues voilà 5 ans, et qui est lui aussi philosophe, médiéviste, et spécialiste notamment d'Averroès et d'Averroïsme, mais aussi de Maître Eckhart et de Dante. 1198-1998. C'est cette année le 800e anniversaire de la mort d'Averroès. Et je crois qu'il ne s'agit pas ici de le célébrer, mais encore moins de le commémorer. Il s'agit de se donner les moyens de comprendre. Et lors des premières rencontres d'Averroès sur l'héritage andalou, j'avais ouvert ces rencontres par la lecture d'un texte de Borges tiré de l'Aleph qui s'appelle La quête d'Averroès. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, pour commencer, à nouveau vous le faire entendre. Il écrivait avec une lente sécurité, de droite à gauche. Son application à former des syllogismes et à enchaîner de vastes paragraphes ne l'empêchait pas de sentir comme un bien-être la fraîche et profonde maison qui l'entourait. Au fond de ce repos s'enrouaient d'amoureuses colombes. De quelques patios invisibles montait le bruit d'une fontaine. Quelque chose dans la chair d'Averroès, dont les ancêtres venaient des déserts arabes, était reconnaissant à cette continuité de l'eau. En bas se trouvaient les jardins, le potager. En bas, le Guadalquivir absorbé par sa tâche. Plus loin, Cordoue, la ville chère à son cœur, aussi lumineuse que Bagdad et le Caire, comme un instrument complexe et délicat. Et alentour, Averroès le percevait aussi, s'élargissait jusqu'à l'horizon la terre d'Espagne, où il y a peu de choses, mais où chaque chose paraît exister selon un mode substantif et éternel. Alors, au-delà du mythe d'Averroès, que certains cinéastes ont tenté de propager, j'aimerais commencer par interroger cette figure et me tourner vers Alain Delibera pour lui demander en quoi la figure d'Averroès lui paraît importante. Qu'est-ce qu'au fond, pour commencer, 800 ans après, qu'est-ce qu'on peut tirer d'Averroès et qu'a-t-il apporté à l'histoire de la connaissance?
Averroès est un homme d'abord qui a vécu, travaillé, pensé en Andalousie, dans l'Andalousie almohade du XIIe siècle. Et c'est là qu'il a connu le sommet de la faveur politique, qu'il a connu aussi l'amertume de l'échec et de l'exil pour un temps. C'est un juriste, c'est un théologien, c'est un médecin et c'est un philosophe. Donc ce qu'il a apporté à l'histoire de la connaissance devrait normalement pouvoir être évalué et reçu dans ces quatre domaines. Nous sommes loin du compte. Nous connaissons ici, c'est-à-dire de ce côté de la Méditerranée, essentiellement comme philosophe, comme commentateur d'Aristote, et un petit peu comme médecin. Son œuvre de juriste reste tout à fait terre inconnue, et sa longue et très importante polémique avec les théologiens musulmans reste aussi assez largement méconnue.
Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à Averroès? Pourquoi est-ce que cette figure est comme ça ressurgie et qu'elle compte autant dans l'histoire de la connaissance? Et dans vos livres, vous soulignez toute l'importance de la figure d'Averroès.
Pour deux raisons, l'une qui appart au mythe, on ne peut pas faire l'économie des mythes en histoire, et l'autre qui tient plus étroitement à la réalité. Alors, oublions un instant le mythe. Historiquement, Averroès, le savant, un savant aussi difficile, complet, exigeant qu'Aristote, Averroès, c'est la figure centrale, probablement aussi la plus importante au Moyen-Âge, de ce qu'on pourrait appeler l'acculturation philosophique de l'Occident latin, chrétien, bien entendu, de l'Occident musulman aussi. Averroès, je l'ai appelé tout à l'heure le commentateur, c'est le nom qu'on lui a donné au Moyen-Âge, à l'époque où Aristote était appelé le philosophe et Paul l'apôtre. Averroès est le commentateur, c'est-à-dire celui qui a, au fond, été par excellence l'intermédiaire entre cette philosophie grecque lointaine, un peu morte, dont on recevait la lumière comme d'une étoile disparue, et un monde qui se cherchait des références et qui essayait de se donner une culture scientifique. Averroès, donc, c'est l'intermédiaire. D'autre part, c'est aussi celui, peut-être surtout celui, qui a supposé, avec une force particulière, une intelligence particulière, le problème du, non pas de ce qu'on appelle encore dans une encyclique récente, la relation entre la philosophie et la foi, mais surtout celui du statut légal de la philosophie, de l'activité philosophique, de la sagesse, de la science en terre d'islam. Averroès, on le présente assez souvent comme une sorte de
libertin.
Oui, alors de libertin, ça c'est une légende qui s'est créée au XVIe siècle, pour ainsi dire. Averroès, pour son malheur, était considéré comme l'auteur du blasphème des trois imposteurs, blasphème que, évidemment, je ne reproduirai pas ici de manière sonore, mais vous pouvez imaginer de quoi il s'agit. On ne blasphème pas la radio, quand même. Et, il s'agissait en somme de trois blasphèmes contre les trois religions dites aujourd'hui religions du livre, la religion de Moïse, la religion de Jésus et la religion du prophète. On a attribué ensuite à Averroès la paternité d'un livre qui s'intitulait « Le livre des trois imposteurs », livre qui n'avait jamais été écrit au Moyen-Âge, ni par Averroès, ni par qui que ce soit d'autre, mais qu'on éprouvait un tel désir de lire qu'on a fini d'ailleurs par l'écrire au début du XVIIe siècle.
La mystification est complète.
Mystification absolument totale. Bon, pourquoi cet Averroès libertin? Parce qu'en fait, au cours de diverses censures qui ont eu lieu dans le lieu de pouvoir principal du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIe, autrement dit l'université occidentale, l'université de Paris spécialement, on a attribué à Averroès une doctrine qu'il n'avait absolument jamais soutenue, qui était la doctrine dite de la double vérité, selon laquelle, effectivement, existeraient deux vérités contraires, l'une de la révélation et l'autre de la philosophie. Averroès serait, en quelque sorte, si on devait le représenter sous des traits un peu moins exotiques, mais pas nécessairement plus vrais, que ceux que Youssef Chahine lui a donné dans son film, Averroès serait quelqu'un qui aurait en somme deux casquettes, comme on dit aujourd'hui, qu'il coifferait à tour de rôle, une casquette de musulman pieux, et qui, sous cette casquette, il y aurait une bouche qui prononcerait un certain nombre de paroles révérencieuses à l'égard de la religion, et il aurait une autre casquette qu'il coifferait à d'autres moments. Sous cette seconde casquette, il y aurait la même bouche qui prononcerait un certain nombre de vérités philosophiques qui seraient parfaitement irrévérencieuses pour la religion. Et sous ces casquettes alternatives, on est censé trouver un même homme qui, nécessairement, s'il ne se contredit pas, s'il n'accepte pas de se contredire d'un instant à l'autre, ne peut être que quelqu'un qui est un cynique public et, à la rigueur, un fidéiste privé. Mais tout cela, c'est une légende qui est née de la censure universitaire latine du XIIIe siècle. Le personnage d'Averroès est tout autre. Son personnage théorique est absolument tout autre.
Alors, je vais me tourner vers Mohamed Harkoun et pour revenir sur ce thème des Lumières. Est-ce que pour vous, Averroès est un porteur de lumière? Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça?
Je crois que oui. Cependant, il faut être prudent pour ne pas faire d'anachronisme, parce que le mot lumière, surtout en France, en Europe en général, mais en France en particulier, est chargé de tout ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Et quand on dit raison des Lumières et les Lumières, nous pensons au grand mouvement d'idées qui a soulevé l'Europe au XVIIIe siècle. Ceci dit, dans l'histoire de la raison, en contexte islamique, on peut parler de moments, au pluriel, où il y a eu des lumières de la raison, en ce sens que la raison a occupé une place importante dans ce qu'on peut appeler la recherche scientifique, mais aussi dans ce qu'on peut, dans ce qu'on doit appeler et considérer comme la réflexion sur les grands problèmes posés en particulier par la religion. Car nous sommes au Moyen-Âge et la religion et les théologies juives, chrétiennes et musulmanes occupent toute la scène intellectuelle.
Oui, on pense selon les catégories religieuses.
Absolument. Et c'est, il faut comprendre ce grand fait d'histoire de la pensée et le rôle que joue la raison théologique. Et quand je dis la raison théologique, il faut penser aux trois religions qui ont toujours coexisté justement dans cet espace méditerranéen dont nous parlons et qui étaient concurrentes en ce sens que chaque théologie défend sa conception de la vérité en excluant les deux autres. Et l'on peut dire que les systèmes théologiques qui se sont construits au Moyen-Âge se sont construits comme des systèmes intellectuels et culturels d'exclusion réciproque. C'est très important aussi de retenir cette idée. Et devant ce travail de la raison théologique, il y a l'intervention extrêmement importante de la raison philosophique. Et c'est ici que le rôle d'Averroès, mais il n'y a pas qu'Averroès, bien sûr, il y a eu d'autres philosophes au 8e, 9e, 10e siècle qui ont beaucoup travaillé. Il y a eu Farabi, il y a eu Kindi, il y a eu Avicenne, il y a eu Mistawai, il y a eu beaucoup d'autres que je ne peux pas énumérer. Et l'on peut dire justement que le 10e siècle est un moment tout à fait exceptionnel dans l'histoire de la pensée d'expression arabe, car toute la science et toute la pensée s'est exprimée en langue arabe entre le 7e et le 11e siècle. Et c'est en ce sens qu'on peut parler de philosophie arabe en contexte islamique, parce que la raison islamique, théologique et les autres théologies étaient là. Et le 10e siècle est un moment où on peut même parler d'humanisme, au sens où on va parler d'humanisme au 16e siècle, sans faire d'anachronisme ici encore. Cette attitude humaniste est liée au progrès de la raison philosophique en climat islamique. Des progrès tels que la raison philosophique n'était plus seulement pratiquée et défendue par les philosophes de métier, c'était devenu ce que l'on appelle en histoire de la pensée arabe de l'adab. Le mot adab, qui traduit aujourd'hui la littérature, en ce temps-là, doit être traduit par humanisme, parce que le mot adab s'appliquait à toutes les connaissances du temps. Et un adib, c'est un humaniste qui devait connaître et qui devait pratiquer toutes les connaissances de son temps en les mettant en relation, par exemple, si on est un vizir ou si on a charge politique, avec l'action politique. En les mettant également en relation, toujours, et ceci pour chaque individu, avec l'action morale, la conduite morale. Et c'est en ce sens qu'il y a lumière et humanisme.
Donc humanisme, éclaircie de la raison, donc en contexte islamique. Est-ce qu'on peut dire la même chose à Alain Liberin en contexte chrétien?
La représentation qu'on a des lumières vient effectivement du XVIIIe siècle, des questions post Kant, qu'est-ce que les lumières, was ist Aufklärung. Nous associons à l'idée de lumière l'idée de libre examen, l'idée de démystification, l'idée de critique de l'autorité et du principe d'autorité, et nous lui associons aussi, en général, l'émergence de ce qu'on pourrait appeler l'exigence d'universalité, la prise de conscience de l'homme en tant que tel, comme sujet de droit, comme sujet éthique, comme sujet historique. Peut-on dans ce sens-là précis, parler des lumières averroïstes ou des lumières du Moyen-Âge. Revenons deux secondes sur le problème des rapports entre philosophie et théologie. Je reviens à l'encyclique récente du pape Jean-Paul II. Celui-ci déplore ce qu'il appelle le séparatisme philosophique. Le fait que la philosophie ait cru bon, à partir du 18e siècle précisément, de se poser en instance autonome et de se développer séparément, en quelque façon, à l'écart de la religion et sans prendre son orientation et son inspiration fondamentale dans les données de la révélation. Le Moyen-Âge est, je dirais, la période que le pape eût dû choisir pour marquer cette grande coupure.
Vous voulez dire qu'il a une pensée moyenâgeuse ?
Non, je veux dire qu'il donne une lecture médiévale d'un épisode qu'il situe à tort dans les lumières du XVIIIe siècle. C'est en effet en plein Moyen-Âge, en 1277 exactement, à Paris, que l'évêque de Paris, agissant au nom de l'unique pape philosophe qu'il y ait eu avant Jean-Paul II, à savoir Jean 21, a condamné 219 thèses philosophiques, qui étaient pour l'essentiel des thèses philosophiques arabes. Comment les historiens interprètent-ils ce phénomène en général ? C'est très simple. D'un côté, on dit, avant 77, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un mariage précoce entre philosophie et théologie. C'est saint Thomas d'Aquin qui, dit Gilson, le grand historien de cette période, a assuré le triomphe de la théologie dans la philosophie. Ensuite, il y a Duns Scot qui assure le triomphe de la théologie sur la philosophie. Puis, il y a, alors c'est la séparation de corps, chacun reprend ses biens, puis il y a un certain philosophe qu'on appelle Guillaume d'Ockham, nominaliste, 14e siècle, qui, lui, inaugure une période de séparation totale, c'est le divorce. Gilson dit, eh bien, c'est pareil pour l'avéroïsme. Les avéroïstes, qui sont des réactionnaires bornés, qu'il compare aux émigrés, qui n'ont rien oublié, rien appris, les avéroïstes auraient dû se dissoudre dans le nominalisme et tout aurait été, pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Bon, voilà le diagnostic qu'on pose sur une crise qui est celle du Moyen-Âge. Voilà le scénario qu'on retrouve aujourd'hui, on n'a pas évolué d'un pouce, il y a un absent dans cette histoire, c'est Averroès qui a posé le problème d'une manière absolument différente de cela. Que fait Averroès lui? Il dit, eh bien c'est simple, regardons cet énoncé religieux, il a un sens obvie, évident, il a peut-être un sens caché, il m'incombe, à moi, philosophe et musulman, d'interpréter, non pas la phrase philosophique pour la rendre conforme à l'énoncé révélé, mais d'interpréter l'énoncé révélé pour trouver un sens qui le rende conforme à la vérité scientifique démontrée et établie par la raison. Voilà ce qu'est l'interprétation. Deux vérités ne peuvent pas se contredire, mais en revanche, il appartient effectivement à l'interprète, au commentateur, par un effort personnel qui est requis religieusement, de trouver une intelligibilité de surcroît, supplémentaire, dans le texte révélé. Il lui appartient d'accroître la sphère du sens pour l'homme auquel le texte est destiné. Et il lui appartient aussi de répondre à un appel. Averroès considère que la révélation s'adresse à tous les hommes. Si elle s'adresse à tous les hommes, elle s'adresse aussi aux intellectuels.
Et vous avez même jusqu'à dire que l'islam serait porteur de raison et serait même à l'origine de notre notion d'intellectuel.
M. Harkoun a rappelé tout à l'heure qu'après tout, il y a des juristes, il y a des théologiens, il y a d'autres rationalistes que les philosophes. Donc il y a une pluralité des formes du rationnel. Il y a, dans ces formes de rationalité multiples, il y a une rationalité théologique, hein, j'insiste, il y a dans ces formes plurielles une histoire, il y a une évolution, il y a des changements, il y a des critiques, il y a des révisions, il y a un progrès.
Alors, qu'est-ce que l'islam a apporté dans tout cela ?
Eh bien, l'islam a passé, disons, dès que en ont été connus précisément les produits ou les manifestations culturelles, littéraires, philosophiques les plus rationalistes. Il a passé précisément pour ce qui incarnait, représentait la raison face au dogme. Quelques exemples. Au XIIe siècle, un philosophe que tout le monde connaît plus ou moins pour ses malheurs, d'une part parce qu'il les a racontés dans un livre qui s'appelle « Histoire de mes malheurs » et ensuite parce que son malheur est relativement, effectivement, douloureux, Pierre Abélard, dans le livre qu'il a rédigé qui s'appelle « Dialogue entre un philosophe, un juif et un chrétien », fait tenir aux musulmans le rôle du philosophe. C'est-à-dire que dès cette époque, il y a une espèce d'assimilation qui se fait entre ces penseurs venus de l'islam et ceux qu'on appelle les philosophes.
Mais la figure du philosophe
vivant, pas les philosophes morts et enterrés du lointain passé grec.
La figure du philosophe, donc, à ce moment-là, il y a une évidence que c'est il est né en terre d'islam. Enfin, il produit de la pensée dans l'islam et en langue arabe.
Eh bien, parce qu'il existe toujours des gens qui ont une activité philosophique à cette époque. Alors que dans le monde byzantin, il y a des gens qui sont des spécialistes de culture générale et qu'on appelle encore philosophes, mais qui sont plutôt utilisés par l'empereur comme des professeurs de l'école nationale d'administration. Ils sont auprès de l'empereur, à la cour impériale, pour former de futurs hauts fonctionnaires et des administrateurs. Culture générale, certainement pas. Science ou philosophie. À cette époque, on appelle la philosophie la science intruse. Elle est toujours étrangère. Étrangère parce qu'elle est née en Grèce, mais étrangère parce qu'elle est étrangère à la révélation, qu'il s'agisse de la révélation faite à Moïse, qu'il s'agisse de la révélation que transmet le Nouveau Testament, qu'il s'agisse de la révélation apportée par le prophète. Donc, la philosophie est toujours une science étrangère. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est une science intruse. Dans le monde chrétien, eh bien, la philosophie, elle est soit morte, et c'est la philosophie lointaine des Grecs, soit vivante, quelque part, en bas, en Andalousie, et on sait qu'à l'époque d'Abélard, par les voyages, par les récits, étaient apparues quelques traces de cette figure, ce premier Averroès, d'une certaine manière, qui était Ibn Bajjah, personnage présenté par les chroniqueurs arabes de l'époque comme un impie, comme un homme qui préférait s'adonner aux sciences et à la contemplation du ciel plutôt que de méditer l'écriture.
Donc voilà peut-être ce premier passage des Lumières, je dirais, du monde de l'islam vers le monde chrétien, à travers cet exemple d'Abélard. J'aimerais maintenant, Mohamed Harkoun, qu'on se tourne vers un autre passage, qui est celui du passage des Lumières, de l'islam vers lui-même. Au fond, comment se fait-il, Mohamed Harkoun, que ce moment d'éclaircie de la raison dont vous avez parlé tout à l'heure, 10e, 12e siècle, se soit interrompu, et que finalement, Averroès ne semble-t-il guère eu de descendance en islam? Comment est-ce que vous expliquez cela?
Oui, les choses du côté de la pensée islamique sont évidemment beaucoup plus complexes que cette image que nous donne l'étude des usages faits de cette pensée islamique en milieu chrétien au Moyen-Âge. Beaucoup plus complexe parce que la lutte entre la raison philosophique et la raison religieuse, en réalité, a commencé dès les débuts de l'introduction de la philosophie en contexte islamique. Il y a eu même un mouvement théologique, qu'on appelle les Mu'tazilites, qui se sont beaucoup rapprochés d'un usage relativement philosophique ou philosophant pour essayer de faire évoluer la pensée islamique, la pensée théologique islamique. Eh bien, ce mouvement a connu un échec et une condamnation à partir du XIe siècle. Et il a disparu de la scène intellectuel de la pensée islamique.
C'est un échec définitif?
Il faut attendre les années... avec Mohamed Abdou, il s'y est intéressé, mais timidement. Mohamed Abdou est un égyptien, un théologien qui a vécu jusqu'en 1905, donc la fin du 19e siècle. Et il faut attendre les années 50 pour que l'on retrouve des œuvres majeures du mu'tazilisme qui s'était réfugié au Yémen après sa condamnation dans l'espace islamique officiel, c'est-à-dire le Proche-Orient.
Donc ça, c'est le constat de l'échec.
Et Averroès, par exemple, ne pouvait pas avoir accès à cette pensée mu'tazilite parce que les malikites ont fait un barrage à cette pensée qui est théologique, je vous le rappelle. Ils ont fait un barrage même à cette pensée dans ce qu'on appelle l'Occident musulman, c'est-à-dire le Maghreb et l'Espagne musulmane de ce temps-là. Ceci pour la théologie. Si on en vient maintenant à la philosophie dont nous parlons, Averroès est un moment extrêmement important parce que, après la mort d'Averroès, la philosophie, la pensée philosophique, l'attitude surtout philosophique que représente Averroès va disparaître jusqu'à nos jours.
Les raisons de cela, c'est évidemment l'émergence corrélative à partir du XIIIe siècle de l'Europe. L'Europe va prendre de plus en plus de place sur tous les domaines, et le monde musulman va connaître effectivement un recul sur...
Il n'y aurait qu'une raison extérieure.
Il y a des raisons intérieures qui est cette lutte entre ce que j'appellerais la raison religieuse, et je dis raison religieuse pour englober à la fois la raison théologique, la raison juridique que représentent les juristes théologiens qui jouent un rôle de contrôle de l'orthodoxie dans l'islam. Et puis il y a l'usage, je n'ose pas l'appeler mystique à partir du XIIIe siècle, c'est un usage confrérique de la raison religieuse. Les confréries, c'est un phénomène à la fois politique, social et culturel, qui va couvrir l'ensemble du monde musulman à partir du XIIIe siècle, pratiquement jusqu'au début du XXe, et même jusqu'aux indépendances. Mmh. En Algérie, par exemple, les marabouts, ce qu'on appelle les marabouts en Afrique du Nord, d'une façon générale, représentent cette structure à la fois sociale, politique et religieuse, et donc culturelle aussi, de l'ensemble de la société. Et les confréries ont rompu à la fois avec la réflexion théologique, qui exige quand même des outils importants qui viennent en grande partie de la philosophie, et a fortiori de la philosophie elle-même. Donc il y a ce phénomène extrêmement important qui représente aujourd'hui une clé pour comprendre les insuffisances intellectuelles actuelles du discours islamique tel qu'il s'est développé à partir des années 50 en relation avec le discours nationaliste, les discours nationalistes de libération, et après l'intervention de ce que nous appelons la révolution islamique ou la révolution iranienne avec Khomeini, c'est le discours fondamentaliste qui va rendre les choses encore beaucoup plus
difficiles. Oui, c'est ce qui fait que finalement il y a un retournement de l'image de l'islam.
Parce que
bien sûr, Alain Libera expliquait tout à l'heure que la figure du philosophe au XIIe siècle c'était le musulman. Aujourd'hui, la vision que l'on a plutôt de l'islam est un certain obscurantisme. Donc où sont passées ces lumières dans l'islam?
Elles sont passées dans l'oubli, elles sont dans des manuscrits. Il y a un tas de manuscrits qu'on n'a pas encore édités et qui sont encore ignorés. Les œuvres des philosophes, on commence à les déterrer, si je puis dire, à partir du 19e siècle. C'est le travail de ce qu'on appelle les orientalistes, beaucoup plus que des musulmans eux-mêmes, parce que les sociétés musulmanes ont subi les effets de cette évolution. Monsieur Montrand nous dira peut-être tout à l'heure ce qui s'est passé durant la très longue période ottomane, du XVIe siècle jusqu'à l'abolition du sultanat ottoman par Atatürk en 1924. Il y a là une période d'histoire où l'histoire intellectuelle de la pensée islamique, puisque les Ottomans ont pris en charge cette pensée-là, ou sont censés avoir pris en charge cette pensée-là, eh bien, ils ne l'ont pas fait du tout. Et c'est là une page d'histoire qui, à mes yeux, n'est pas encore écrite correctement, et nous avons besoin de l'écrire, même s'il n'y a rien à se mettre sous la dent, c'est-à-dire s'il n'y a pas de grand texte à étudier, parce que vous savez, quand on fait une thèse, on choisit un grand auteur représentatif avec un grand texte, etc. Il faut regarder ce qu'ont fait les marabouts, par exemple, ce qu'ont produit les confréries dans ce qu'on appelle les zaouias. Il faut descendre au niveau populaire de la religion. Or, lorsqu'on descend au niveau populaire, nous rencontrons une culture orale qui s'est répandue pendant ces siècles-là dans l'ensemble des pays musulmans. Et ça aussi, ça nous indique une des raisons clés du recul de la philosophie, parce que la philosophie relève de la culture savante et écrite. Il faut savoir lire et écrire. Il faut apprendre non seulement à lire et à écrire, mais s'initier à une pensée qui utilise des outils intellectuels extrêmement compliqués. Or, les lieux de transmission de cette culture savante ont progressivement disparu, et comme le pouvoir central qui régnait sur l'ensemble du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, sauf le Maroc, je parle de l'Empire ottoman, ne s'intéressait pas, il faut bien le dire, à la vie intellectuelle, à un renouveau de la vie intellectuelle, malgré les contacts matériels qui vont se développer entre les Ottomans et l'Europe à partir du XVIIIe siècle, le côté intellectuel est resté négligé. Il y a là des choses que les musulmans eux-mêmes aujourd'hui ne connaissent pas suffisamment. Et c'est ce qui leur permet de tenir sur l'islam des discours plus apologétiques et idéologiques pour s'approprier cette page de gloire dont nous parlons. C'est pour cela que moi je parle toujours de cette page avec prudence, parce que je sais qu'il en est fait un usage essentiellement apologétique et idéologique face aux Européens, évidemment, qui disent qu'ils ont tout apporté.
Alors justement,
non seulement pour les musulmans, mais pour le monde entier.
Mohamed Harkoun, est-ce qu'il faut renouer avec ces textes, avec cet esprit des Lumières?
Alors aujourd'hui,
qu'est-ce qui vous paraît important?
Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes là pour ça. Et c'est là la grande actualité d'Averroès. C'est cela. D'Averroès et de tous les philosophes, encore une fois, nous ne parlons que d'Averroès, qu'il y a de très grands noms et qu'il y a une littérature abondante qui est très importante. Mais à propos de cette littérature, je voudrais dire quelque chose en tant qu'historien de la pensée islamique qui est aussi extrêmement important. L'idée s'est imposée parmi les arabo-musulmans, ou, j'allais dire les arabo-turco-irano-musulmans, pour englober, oui, c'est un ensemble culturel. Il y a là une continuité, et le concept d'espace méditerranéen en tant qu'espace intellectuel, culturel et historique trouve ici son sens lorsqu'on s'exprime de cette façon-là, parce que nous disons toujours arabe ou islamique, et même maintenant on dit surtout l'islam, même dans ce qui vient de se passer entre nous ici, on a dit l'islam a fait ceci. C'est un langage faux, il ne faut pas parler comme ça. Et c'est difficile, évidemment, de parler autrement. Donc,
alors, quel est l'enjeu ?
L'idée
L'enjeu contemporain,
c'est que l'ensemble de cette pensée à laquelle réfèrent les musulmans aujourd'hui est enfermé dans ce que les historiens décrivent sous le nom d'espace mental médiéval. La raison médiévale, c'est une posture particulière de la raison, où les références aux données révélées sont prédominantes pour tout le monde, juifs, chrétiens et musulmans, dans l'ensemble de l'ère méditerranéenne et donc de l'Europe qui puise dans cet espace-là. Et ce qui va se passer à partir du XVIe siècle en Europe, à partir de la Réforme et de la Renaissance, c'est une rupture avec cette posture essentiellement religieuse, théologique de la raison, qui donnait la primauté et la priorité dans tous les ordres, avec cette posture essentiellement religieuse, théologique de la raison, qui donnait la primauté et la priorité dans tous les ordres de la connaissance aux données révélées. Alors que la raison moderne va mettre à distance ces données révélées jusqu'à dire on n'en a plus besoin, jusqu'à dire Dieu est mort. Et c'est ce qui a fait que nous avons évolué dans cet espace que nous nommons laïque ou séculier, comme l'appellent les anglo-saxons. Et cette rupture de la raison est une rupture profonde, parce qu'elle atteint le regard même que la raison porte sur elle-même, sur son propre travail, et la manière dont désormais, c'est-à-dire dans la modernité, la raison va développer une connaissance critique en toute autonomie par rapport à ce donné révélé qui est marginalisé et même rendu obsolète, historiquement obsolète, intellectuellement inutile. Or, voici qu'à la fin du XXe siècle, nous parlons du retour du religieux, que nous croyons avoir expulsé grâce à cette posture philosophique, scientifique, de la raison des Lumières, précisément, avec laquelle nous vivons, avec laquelle nous réfléchissons, nous percevons notre monde actuel, et c'est cela qui provoque les profonds malentendus qui se traduisent par des affrontements violents et par tout ce que nous disons sur l'islam violent, sur l'islam menaçant, etc.
Alors, il faut revenir.
Il y a une genèse de tout ceci, une genèse historique, une genèse intellectuelle qui est liée au statut même de la raison. Il faut donc réfléchir aujourd'hui sur ce statut de la raison. Et pour les musulmans, je le répète, il ne suffit pas de ressusciter Averroès et de ressusciter l'attitude philosophique telle qu'elle a été pratiquée au Moyen-Âge dans le contexte médiéval pour que la pensée islamique aujourd'hui puisse engager une discussion fructueuse et éventuellement apporter sa contribution sur ce que doit être, ce que j'appelle pour ma part, la raison émergente, car il y a une autre forme de la raison, une autre posture de la raison, qui est en train d'émerger dans les sciences sociales, à travers les sciences sociales, les sciences biologiques et la recherche scientifique contemporaine, depuis les années 50, 60, et davantage encore depuis les années 80, il y a une raison émergente qui est différente philosophiquement, dans sa posture philosophique, et de la raison des Lumières, que nous n'avons pas encore suffisamment digérée, mais elle est obsolète en un sens avant même que nous ayons fini de la digérer, de digérer ses apports positifs, et bien sûr, la raison religieuse. Que devient la raison religieuse ? Quel statut donner aujourd'hui à la raison religieuse si nous abordons l'étude des religions avec les outils de l'anthropologie culturelle et non plus seulement avec les outils historicistes, positivistes de l'histoire des religions telles que nous l'avons pratiquée depuis le 19e siècle.
Voilà, c'est ce que vous appelez
une question considérable.
C'est ce que vous appelez la critique de la raison islamique. C'est ça que
c'est à partir du sort historique de la raison tout court, que je pose ces problèmes. Donc, en disant que voilà ce qui s'est passé du côté islamique à l'intérieur de l'espace méditerranéen, et voilà comment nous devons regarder et revenir à la raison des Lumières, non pas pour travailler avec elle comme nous l'avons fait jusqu'ici, en lui faisant confiance philosophiquement, mais en la soumettant elle-même à un interrogatoire philosophique pour voir ce que nous devons faire pour introduire cette fois-ci une problématique beaucoup plus large et beaucoup plus ouverte pour la première fois dans l'histoire au sujet des religions, mais d'une histoire anthropologique des religions. Et c'est là
une histoire
que va émerger une autre forme de la raison, d'autres postures de la raison qui sont loin encore d'être présentes dans nos institutions de recherche, dans nos universités en Europe et en Amérique qui détiennent l'hégémonie dans ce domaine.
C'est le grand défi intellectuel ou épistémologique que vous posez. Alors souvent, vous l'avez évoqué, Mohamed Harkoun, vous raisonnez, vous analysez toutes ces questions en termes de monde méditerranéen et vous proposez de rétablir la mémoire historique fragmentée des deux rives. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Ça veut dire justement que depuis l'émergence de l'islam, rappelez-vous, il y a un historien belge, Henri Pirellen, qui a écrit en 1936 un ouvrage intitulé « Mahomet et Charlemagne ». Et sa thèse d'historien était de dire que jusqu'à l'émergence de l'islam, au début du 7e siècle, il y avait la Pax Romana et la Mare Nostrum. Tout autour de la Méditerranée, la civilisation romaine et la culture romaine étaient présentes. En Afrique du Nord, en Turquie, en Anatolie, partout, les Romains faisaient régner ce qu'on a appelé longtemps la Pax Romana. Et voilà que l'islam émerge, non seulement comme religion, mais comme force de soulèvement historique dans l'espace de la Méditerranée, et l'islam introduit une rupture historique entre les rives nord et sud, est et ouest. Eh bien, le problème est posé. Il faut revenir à cette thèse et essayer de refaire le parcours historique, non pas avec justement la posture de la raison historienne telle que l'a maniée Henri Pirellen et ses contemporains, mais telle que aujourd'hui, après les Brodel et tous ceux qui ont écrit sur Byzance, sur aussi ce monde islamique, il faut revenir sur cette histoire-là et la réécrire elle aussi, avec d'autres outils, en ouvrant des dossiers
parce que la séparation n'est
que
pas
les
brutale.
Historiens n'ont pas suffisamment ouverts. À mes yeux, la leçon de Brodel, historien français, n'a pas porté en ce qui concerne la Méditerranée dans ses aspects intellectuels dont nous parlons aujourd'hui et culturels, elle n'a pas suffisamment porté pour essayer d'ouvrir l'espace méditerranéen à une exploration de l'ensemble intellectuel et culturel, et pas seulement l'histoire sociale, l'histoire économique, qui a bien sûr son importance, mais qui ne nous éclaire pas sur les enjeux mentaux font que nous nous percevons encore aujourd'hui avec les systèmes légués par le Moyen-Âge, qui sont des systèmes, je vous l'ai dit, intellectuels et culturels d'exclusion réciproque. Cette définition que je propose des théologies, des trois théologies monothéistes, est une définition programmatique pour l'historien. Ça n'est pas une position théologique ou philosophique qui dit voilà comment il faut procéder. Non, c'est un parcours d'historien que nous devons faire. Et ici, je me suis toujours adressé aux historiens. Une des choses, par exemple, qui n'est pas présente dans nos enseignements, c'est une histoire comparée des trois théologies monothéistes. Car notre compréhension de la laïcité, s'il vous plaît, je n'attaque pas la laïcité, je suis là. Il faut toujours que je fasse une profession de foi. À la manière religieuse devant les inquisiteurs. Oui, je vous le dis, ça fait... Ah oui, j'en ai souffert profondément en France. J'enseigne en France, je vis en France, mais je m'appelle Mohamed. Et donc Mohamed ne peut pas tout à fait comprendre la laïcité. Je caricature un peu. Donc, oui, l'histoire comparée des trois religions doit faire partie de l'histoire de ce que moi j'appelle la pensée. Pourquoi je dis la pensée islamique ? Parce qu'au Moyen-Âge, la pensée islamique ne séparait pas les études de droit, des études de théologie, des études d'histoire, des études d'exégèse, des études de langue. Tout cela allait ensemble. Vous ne pouvez pas faire l'exégèse d'un texte sacré sans rassembler toutes ces connaissances ensemble. C'est après la spécialisation et surtout le combat, il faut bien l'appeler ainsi, qui a commencé au Moyen-Âge, comme on nous l'a dit, en 1277, le combat entre la philosophie et la théologie. Eh bien, politiquement, la philosophie l'a emporté. Puisque politiquement, nous avons des départements de philosophie, d'études de la philosophie dans toutes les universités françaises, et la France s'honore d'enseigner la philosophie dans les lycées, mais il n'y a pas de département de théologie, comme il y en a en Allemagne, comme il y en a en Hollande, dans d'autres pays européens. Il y a là une situation particulière de la France. Or, ce que je demande, ça n'est pas de faire revenir la théologie sous sa forme médiévale, j'ai été assez clair là-dessus, mais d'introduire une histoire ouverte de la pensée telle que les médiévaux l'avaient pratiquée et telle qu'aujourd'hui, pour comprendre l'histoire et pour poser surtout la question religieuse dans une épistémologie tout à fait nouvelle, digne de toutes les recherches qui se pratiquent aujourd'hui, réintroduire cette histoire comme un élément important pour ne pas faire les sauts que nous avons faits pendant longtemps.
C'est remembrer l'histoire de la connaissance.
Exactement. C'est ça le remembrement de quelque chose qui a été fragmenté par des interventions idéologiques du politique qui a fait un choix en s'appuyant sur ceci et en rejetant cela. Non. Eh bien, ça n'est pas laïque. Eh oui, c'est au nom de la laïcité. C'est au nom de la laïcité que je réclame à la fois un enseignement d'anthropologie religieuse au sens où je l'ai défini, et un enseignement ouvert de l'histoire de la pensée qui ne fasse plus le saut de l'époque grecque jusqu'à Descartes, comme on l'a fait pendant longtemps, par-dessus le Moyen-Âge, même occidental, car il a fallu réhabiliter même le Moyen-Âge occidental.
Il y a quelques trous dans l'histoire.
Et oui, donc tout cela fait partie de ce que j'appelle le remembrement de la culture au sens le plus large, et principalement le remembrement de la pensée, parce que c'est la pensée qui nous donne les outils nécessaires pour la compréhension de nous-mêmes, pour une relation critique à nos passés respectifs, de façon à sortir de ces perceptions d'exclusion réciproque dans lesquelles nous vivons encore. Car les théologies expulsées de l'espace public laïque fonctionnent dans des espaces privés pour raconter des choses abominables du point de vue, et oui, du point de vue de cette histoire ouverte qui nous sortirait enfin des exclusions réciproques.
Alors voilà comment le passage des Lumières nous amène à des enjeux très contemporains. Merci Mohamed Harkoun de votre fougue. J'aimerais maintenant... comme vous l'avez d'ailleurs invité, me tourner vers Robert Mantran pour voir un peu ce qui se passe autour de ce grand empire qu'est l'Empire ottoman. Et d'une certaine façon, d'interroger quels sont ces moments de fermeture et d'ouverture à la connaissance. Alors, Robert Mantran, que s'est-il passé au lendemain de la prise de Constantinople par Mehmed II, le 29 mai 1453? Qu'est-ce qui s'est joué là? Est-ce qu'on peut dire que c'est une grande période d'ouverture qui commence ?
Je remercie d'abord Mohamed Harkoun de m'avoir ouvert un certain nombre de voies, d'abord pour les historiens en général, et pour un certain nombre de remarques qu'il a faites à propos de l'évolution de la pensée musulmane. En ce qui concerne les Turcs, alors là c'est un problème majeur. Un problème majeur en ce sens que j'ai cherché dans la littérature turque des ouvrages philosophiques, je n'en ai pas trouvé beaucoup, je dirais même pratiquement pas du tout jusqu'à la fin du 19e siècle. Il y a là effectivement une position qui est assez particulière, qui ne se révèle pas à partir de Mehmed de le Conquérant, mais même déjà avant. Est-ce que cela tient à la nature du Turc par rapport aux Arabes, aux Iraniens et autres ? Est-ce que cela tient à des conditions politiques qui ont fait qu'à un certain moment les Turcs ont pris le dessus sur les autres peuples musulmans, qu'il s'agisse des Iraniens, des gens de Mésopotamie, d'Irak ou du Proche-Orient arabe ? Il y a là un ensemble de conditions qui, effectivement, n'ont pas encore été suffisamment étudiées, et je pense que les étudiants et les chercheurs ottomanistes auront du travail à faire dans ce domaine. Il y a certainement, de la part du côté turc, un phénomène qui a joué incontestablement. C'est, il faut bien le dire, le succès militaire. Oui, le fait de la domination militaire et politique des Ottomans, puisqu'il faut plutôt parler des Ottomans que des Turcs en général. Ottomans, ce sont des Turcs, bien sûr, mais à l'origine, ce sont quoi ? Ce sont des Turcomans, c'est-à-dire des individus venus de la Haute-Asie, passés par l'Asie centrale, arrivés au Proche-Orient, convertis à l'islam, mais d'un islam, je ne dirais pas rigoriste, mais d'un islam avec des œillères. Ce sont des musulmans, ils ont adopté le rite hanéfite, qui est pourtant un rite très ouvert, un rite assez large, mais en dehors de cela, ils ne veulent pas voir autre chose. Par conséquent, il y a une position d'un conquérant qui applique des règles musulmanes de droit, d'administration, de gestion, tout en étant vis-à-vis des peuples conquis ouvert et tolérant. Ça ne veut pas dire que on va évoluer avec le temps. Non, la certitude que on est de bons musulmans parce qu'on a vaincu, parce qu'on est dominant, va s'enraciner et faire en sorte qu'on n'a pas besoin d'autre chose.
La philosophie, la puissance paralyse un petit peu le travail de débat philosophique.
Ça stérilise incontestablement la recherche et la pensée philosophique du fait qu'on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, et même lorsque l'on conquiert des peuples grecs, slaves, bulgares ou autres, on ne prend rien chez eux. Il n'y a pas d'acquisition de pensée, il n'y a pas de brassage culturel entre les peuples conquis et le peuple dominateur. Il y a une domination politique qui est ouverte en ce sens qu'elle laisse aux peuples conquis leur langue, leur religion, leurs cadres sociaux, leurs habitudes. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas, de ce point de vue, l'arrivée dans la pensée ottomano-musulmane d'imprégnation venue du monde chrétien. Ça, c'est tout à fait caractéristique, et cela va continuer jusqu'à une période relativement récente.
Donc pour vous, il y a une certaine fermeture.
Il y a une certaine fermeture parce que nous sommes les plus forts, donc nous avons raison. Donc nous avons la pensée islamique renforcée par la conquête. Nous avons de ce point de vue une autorité qui est suffisante. Avec Mehmed II, on a pu penser à un certain moment que la conquête de Constantinople allait ouvrir les esprits. Mehmed II, Mohamed, si vous voulez, pour parler comme mon ami Harkoun, Mehmed II est un personnage assez remarquable. C'est, je n'ai pas un compte de tiers, mais c'est quelqu'un qui est à la fois un grand militaire et un grand homme de culture. Il connaît le turc, il connaît l'arabe, probablement le persan, très probablement le grec et peut-être l'italien. C'est un homme assez extraordinaire à cette époque. Mmh. C'est un homme d'ouverture, non seulement d'ouverture personnelle, mais il fait venir à sa cour des artistes. N'oublions pas qu'il est, je dirais presque, le premier souverain ottoman à faire son portrait par un peintre italien, Gentile Bellini. C'est quand même extraordinaire. C'est une rupture avec les traditions islamiques. D'autre part, il fait venir à sa cour des penseurs, des écrivains, des artistes italiens en général, Jacopo de Langusci, ou bien encore Ciriaco d'Ancône. En outre, il fait faire son
une autobiographie, si je puis dire, par un grec qui s'appelle Critobulos. C'est quand même là aussi, je ne dirais pas un mélange de cultures, mais le fait de montrer qu'au fond, que ce soit un grec, un musulman, un turc, c'est la même chose, c'est un ottoman. Et il y a là une manifestation de puissance, d'état. On est grec, on est serbe, on est bulgare, on est turc, on est plus tard arabe, mais avant tout, on est sujet d'un sultan ottoman. On est ottoman. Il y a une espèce de nationalité, d'identité ottomane qui va se manifester. Un fait tout à fait remarquable avec Mehmed II, c'est qu'il a confisqué les biens des oulémas, un petit peu comme le Shah d'Iran l'avait fait vis-à-vis des ayatollahs. Il a confisqué leurs biens, il a en quelque sorte nationalisé les waqfs, et il s'est attiré l'inimitié des oulémas. Et par réaction, son fils Bayezid, qu'il a emporté sur son frère Djem Sultan, Bayezid est revenu en arrière sur la politique de son père et a été très proche, lui au contraire, des oulémas. Il y a donc eu un retour vers une, je dirais pas une religiosité, mais un respect.
On a parlé même de cléricalisation de l'État.
C'est ça, il y a une espèce de cléricalisation par rapport à une sorte de sécularisation qui avait eu lieu avec son père. Et cette cléricalisation, elle va continuer par la suite avec les successeurs de Bayezid, son fils Selim Ier et Soliman le Magnifique. Il y a là quelque chose qui va être mis en avant. Le pouvoir, par exemple, de Soliman le Magnifique va être fortement étayé sur le plan juridique musulman par la création de la fonction, vraiment une création à ce moment-là, du Cheikhul Islam. Il y avait des oulémas et c'est typique. Le Cheikhul Islam, qui d'ailleurs va totalement suivre les directives de son sultan de maître, eh bien, il va y avoir là une manifestation du lien entre pouvoir et religion. Ça, c'est tout à fait caractéristique.
Mais il y a une belle histoire aussi, je crois, avec Soliman le Magnifique, à propos de son observatoire.
Oui, Soliman le Magnifique a été très ouvert. N'oublions pas que, sous son règne, ont eu lieu les capitulations, la signature de capitulation avec les Français, dont on a fait grand éloge en France. Et quand on parle de Soliman le Magnifique, ah oui, Soliman et François Ier, bien entendu, et les capitulations qui ont permis aux Français de s'installer, de s'imposer, etc., etc. N'oublions pas que ces capitulations sont octroyées par le sultan. Il a bien voulu donner aux Français un certain nombre de pratiques favorables. Il n'a rien demandé en échange. Il n'en avait pas besoin. Il avait créé à ce moment-là la Pax Ottomanica. Il gouverne le Méditerranée depuis les Balkans, depuis la mer Adriatique, jusqu'à la frontière algéro-marocaine. C'est quand même quelque chose d'important. Et alors, il a lui aussi eu des tentatives de... Il a fait des tentatives de promotion de la science, et il a permis la création d'un observatoire qui a été dirigé par Taqiyeddin Ibrahim. Ça a bien marché durant le règne de Soliman, mais une fois mort, eh bien, les oulémas ont repris la main et ont fait fermer l'observatoire et même l'ont détruit. C'est donc là aussi cette rivalité entre pouvoir et religion qui se manifeste. Autre chose, et là je vais aller dans le sens de ce que disait Mohamed Harkoud, on passe du pouvoir de la raison, de la manifestation de la raison, en manifestation d'une autre forme d'ouverture, c'est ce qu'on va appeler l'influence des Lumières. Au XVIe siècle, en raison justement des capitulations, nombre de voyageurs occidentaux, et en particulier français, arrivent dans l'Empire ottoman. Il faut bien constater que ces occidentaux ne connaissent pas grand-chose à l'Orient, ne connaissent pas les langues, ne connaissent pas le pays, l'islam. On vit sur une théorique traduction du Coran qui date du XIIe siècle et qui est plutôt une adaptation qu'une véritable traduction. Il faudra attendre le XVIIe siècle, le milieu du XVIIe siècle, pour avoir une véritable traduction prendre jour. Mais malgré tout, il y a déjà un début de curiosité, un début d'ouverture de la connaissance des Occidentaux vers ce monde de l'Orient. La réciproque n'est pas vraie. Il n'y a pas d'ambassadeur ottoman en Occident, ni en Angleterre, ni en France, ni ailleurs. Et ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'il y aura quelques ambassadeurs. Et l'un d'eux, qui s'appelle Suleiman Aga, est venu à la cour de Louis XIV. Il a été l'objet de risées de la part de la cour. Et c'est à partir de là que Molière a rédigé son Bourgeois gentilhomme. Il y a donc ces ouvertures occidentales, mais pas de réciprocité. Et il faudra attendre le XVIIe siècle pour voir les choses évoluer d'une certaine façon. Tout le début du XVIIe siècle n'est que la constatation d'une pénétration progressive, non pas d'une culture européenne, non pas d'une influence européenne intellectuelle, mais d'une influence mercantile.
Alors justement, j'aimerais, Robert Mantrand, qu'on franchisse un peu les siècles et qu'on aille jusqu'au XVIIIe siècle.
Voilà, alors...
Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là d'un passage des Lumières? Parce que je crois qu'il y a création de l'imprimerie, qu'il y a un certain nombre d'événements qui se produisent, et il y a même une fameuse période qui s'appelle l'ère des tulipes. J'aimerais bien que vous nous racontiez un peu cette ère des tulipes, parce qu'on dit que c'est à ce moment-là, il y a un passage, il y a une interaction, il y a un lien qui se fait avec le monde des Lumières.
Après la constatation d'une période, je dirais, presque négative sur le plan des contacts et des influences, on s'aperçoit qu'à la fin du XVIIe siècle, les choses changent. Et je veux dire qu'il faut rendre grâce à Colbert. À Colbert qui, avec la création de l'école des jeunes de langue, a permis la formation de jeunes gens destinés à être des intermédiaires, des interprètes à la cour dans la dépendance de l'ambassadeur de France, mais les Vénitiens avaient déjà fait ça, mais d'une façon plus restreinte. Et ces droguements, et certains noms sont célèbres, comme celui d'Antoine Galland, traducteur des Mille et Une Nuits, comme François Pétis de la Croix, l'inventeur des Mille et Un Jours, récit théoriquement persan, mais qu'il a rédigé lui-même. Ben, cela étant, il y a avec ces droguements quelque chose qui change. Ces droguements, qui auparavant étaient en contact épisodique avec les autorités ottomanes pour des raisons uniquement professionnelles, diplomatiques, arrivent à prendre des contacts directs avec des personnalités ottomanes. Et en particulier Antoine Galland a été très proche de celui qu'on appelle le Reïs el-Kutab, disons le chargé des affaires étrangères, devenu ensuite grand vizir, Rami Mehmet Efendi. Mais il n'est pas le seul. Un certain nombre de ces personnalités petit à petit s'informe de ce qui se passe en Occident. Les Turcs, à ce moment-là, sont en conflit avec d'autres puissances, les Russes, les Autrichiens subissent des défaites. Et ils veulent essayer de comprendre pourquoi il y a ces défaites. Et ils vont s'informer, ils vont demander des rapports, et effectivement, au début du XVIIIe siècle, un personnage assez extraordinaire est envoyé en mission en France. Il s'appelle Yirmisekis Mehmet Efendi. Il doit venir en France pour voir comment la nation française a évolué, ce qui fait son importance, sa richesse, sa fortune militaire, etc. Et Mehmet Efendi, accompagné de son fils Saïd, s'embarque et il arrive, il doit débarquer à Marseille. Manque de chance, à Marseille, à ce moment-là, il y a la peste. Il ne peut pas débarquer à Marseille, tant pis pour les Marseillais, mais heureusement nous sommes là. Et il va aller à Montpellier, accueilli alors là tout à fait sympathiquement, il passe par Bordeaux, arrive à Paris, et là il va découvrir un certain nombre de faits qui vont le frapper considérablement, au point que rentré un an plus tard dans sa bonne ville de Istanbul, il va rédiger la relation de son voyage en France avec un tel enthousiasme que les lecteurs ottomans trouvent que c'est vraiment, ou bien il a été payé, ou bien il a...
C'est une mystification, là.
C'est une mystification, etc. Mais toujours est-il qu'il va permettre l'introduction en Turquie d'une chose tout à fait assez extraordinaire, le protocole. Le protocole de réception d'un ambassadeur. Il va reproduire pour l'ambassadeur d'Iran qui vient peu de temps après à Constantinople, à Istanbul. Il va mettre en place le protocole qu'il a eu lui-même à exercer lors de sa visite devant le jeune roi Louis XV.
On est quand même là, Robert Mantrand, assez loin du passage des Lumières.
Oui, alors, autre chose...
Si elle se limite au protocole...
Oui, mais en même temps, il fait créer, au fond de la Corne d'Or, des jardins. Dans ce qu'on appelle les eaux douces d'Europe, il fait créer des jardins, je dirais pas à l'imitation de ce qu'il a vu à Versailles, au Trianon, etc., mais avec l'esprit justement de liberté, je ne dirais pas de licence, mais d'ouverture pour les personnalités de la cour. Et enfin, chose beaucoup plus importante, son fils Saïd Efendi, qui a été la coqueluche des dames de Paris, est revenu avec une idée tout à fait extraordinaire pour l'époque, c'est la création d'une imprimerie. Il existe à Constantinople, ou Istanbul, comme le disent les Turcs, il existe déjà une imprimerie grecque, une imprimerie juive, une imprimerie arménienne. Il n'y a pas d'imprimerie en caractères arabes. Et Saïd Effendi, avec l'aide d'un spécialiste d'origine hongroise qui s'appelle Ibrahim Bouteflika, va créer en 1727 la première imprimerie en caractères arabes. Et les ouvrages qui sont imprimés à ce moment-là sont d'abord des traductions d'ouvrages occidentaux, mais pas n'importe quoi, car les oulémas mettent le haut là. Oui. Pas question d'imprimer des ouvrages religieux, pas question d'imprimer des ouvrages à caractère critique ou même proche du gouvernement et de l'administration. On traduit quoi ? Des ouvrages de géographie, des ouvrages d'histoire du monde en général et de l'Europe en particulier, des ouvrages de linguistique et de grammaire, c'est à peu près tout. Entre 1729, date du premier ouvrage, et 1745, moins de 30 ouvrages sont publiés. 1745, fermeture de l'imprimerie sous la pression des oulémas.
Il y a toujours Robert Mantran, ce va-et-vient d'ouverture, de fermeture. Alors j'aimerais qu'on avance encore un tout petit peu dans le temps, pour la période qu'on appelle des tanzimats, des réformes, hein, de Selim III et de Mahmoud II. Est-ce que cette période des réformes sont liées, dans l'Empire ottoman, est-ce qu'elles seront inspirées des Lumières ? Parce que je crois que c'est ce qu'on apprend souvent dans l'histoire de France, et je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait exact.
Oui, alors, après, la deuxième moitié du XVIIIe siècle est une période de fermeture, mais 1778, c'est le traité de Kutchukajnarja, 78 si je ne me trompe pas.
C'est pas grave. Comment ça se perd, ce phénomène des temps
de la révélation d'une faiblesse très grave de l'Empire ottoman. Il a perdu sa supériorité militaire, il est en train de perdre des territoires, et les grands succès de Selim, de Mahmoud, de Mehmed II, de Selim, de Soliman al-Mahdi disparaissent devant cette constatation. Il faut donc faire des réformes. Et les premières réformes qui ont été introduites sont des réformes à caractère militaire, des réformes de technologie militaire pour l'artillerie, pour la marine, et on fait appel à des techniciens étrangers. Le plus célèbre, c'est le fameux Bonneval Pacha, qui va se convertir derrière les sables. Il y a un Écossais, Campbell, qui se convertit également. Il y a Durest, il y a Hubert, etc.
Il y a toujours la dimension militaire qui est là.
Et c'est d'abord la dimension militaire, parce que c'est cette tentative de reconquête de la supériorité, non seulement sur les pays d'Europe, mais aussi, car quelque chose bouge dans le monde musulman, arabo-musulman, les Arabes constatent que ce monde est en train de s'agiter et qu'il perd de son efficacité ancienne. Et par conséquent, il y a déjà des soubresauts du côté syrien et du côté égyptien pour essayer je ne dirais pas de rénover le monde de l'islam, mais pour se dissocier de ce gouvernement qui n'est pas à la hauteur de la tâche. Alors, Selim III, qui arrive au pouvoir en 1789, Selim III va commencer à introduire des réformes militaires, avec la création d'une tranche, d'une section nouvelle dans l'armée, réforme administrative qui va être très mal accueillie par les autorités locales, par les notables, et finalement, le pouvoir religieux empêche l'action de Selim III, qui est destitué et finalement exécuté. Et c'est, après lui, Mahmoud II, dont on dit qu'il a été inspiré par une Française, j'ai oublié son nom pour le moment.
C'est un peu une mythologie, non ?
Oui, il y a un petit peu de légende qui court sur là, mais il est incontestable que Mahmoud II va introduire alors véritablement les réformes militaires, administratives, et même, je dirais, éducatives, puisque, bon, il n'y a pas encore la création de nouvelles écoles, mais il y pense, il surtout va transformer l'armée. Et chose intéressante, à partir de cette époque du début du 19e siècle, on va voir, et là, je pense à ce que va nous dire Madame Hennan, c'est qu'il y a une rivalité qui s'installe entre Le Caire, inspiré par Mohamed Ali, et Istanbul de Mahmoud II. Il y a véritablement quelque chose qui va jouer. C'est à qui fera le plus preuve, je dirais, d'occidentalisation, car c'est ça qui va être l'indication des Lumières, dans un certain nombre de manifestations, éducation, armée, administration, etc. etc. Alors, et cette période des tanzimats trouvera sa manifestation dans deux décrets, un de 1839, un de 1856, et à partir de là, il faut faire la place aux minoritaires, dont je n'ai pas beaucoup parlé parce que je n'ai pas eu le temps, aux minoritaires qui vont petit à petit prendre une place grandissante
dans le monde musulman, ceux qu'on appelle les Milettes, les Grecs, les Juifs, les donc, Arméniens.
Grand mouvement
et
de...
ceci va durer jusqu'à la guerre de 1914-18.
Grand mouvement de réforme, peut-être passage des Lumières. Donc vous avez parlé comme ça de Robert Mantran, de ce va-et-vient entre Istanbul et le Caire. Et effectivement, je me tourne vers Leyla Hemen pour terminer cette première discussion entre nous, cette première table ronde. Alors nous voici au Caire, au temps de Bonaparte.
Voilà, excusez-moi un mot. Je rappellerai au professeur Mantran que parmi les officiers qui avaient été...
Discussion entre nous, cette première table ronde. Alors nous voici au Caire, au temps de Bonaparte.
Voilà, excusez-moi un mot. Je rappellerai au professeur Mantran que parmi les officiers qui avaient été envoyés, soit les émigrés nobles qui n'avaient plus de pain sur la planche à cause de la Révolution française, soit avec les excellents rapports qu'avait le gouvernement révolutionnaire avec l'Europe, le jeune général Bonaparte a failli partir en 1795 comme un de ces officiers qui irait justement apprendre à l'armée turque comment utiliser les canons, etc.
Alors, le général Bonaparte n'est pas allé donc à Istanbul, mais est plutôt allé au Caire, et donc a débarqué en 1798. Est-ce que là, les choses sont assez différentes? Parce que ce n'est pas par une ambassade pacifique, comme par Mehmet Efendi, tel que l'a raconté Robert Mantran, que cet éventuel passage des Lumières s'opère en Égypte. C'est par une conquête militaire. Alors, est-ce que ça change tout, Leyla Hemen? Le fait qu'il y a une intrusion de l'Europe, une intrusion des Lumières, en tout cas elle se présente comme telle, qui se passe par une conquête militaire.
Ah, Lumières, conquête militaire, j'ai vaguement l'impression que les deux mots ont deux pôles.
Justement,
alors là, c'est triste à dire, mais c'est un mythe qui est parti d'un fantasme et qui a été tellement répété qu'on a fini par le prendre pour une réalité. Il va, je crois, qu'on
a... Expliquez-nous ce mythe, justement. C'est un mythe historique qui a été construit notamment en France.
Ben oui, essentiellement.
Ah, vous m'avez dit aussi qu'il a été construit en Égypte.
Il n'a pas été construit en Égypte, il a été emprunté à la France. Et comme beaucoup d'intellectuels égyptiens ont pour la France un amour immodéré, je remonterai jusqu'à Chimène et Rodrigue. Alors, puisque les Français disent ça, parce que les Français ne peuvent pas mentir, puisque les Français disent ça, alors c'est certainement vrai, quitte à déchanter après ça. Ça,
alors, quel est ce mythe, Leyla Hemen?
Ce mythe, c'est que l'Égypte moderne, comme on me l'a appris dans l'école de la Troisième République, dans laquelle j'ai passé mon enfance au Caire, en Égypte, c'était les livres de Malé et Isaac, et j'ai répété ma leçon comme toute bonne élève qui a nommé dans son enfance nos ancêtres les Gaulois. Et alors on m'a appris que l'Égypte moderne a commencé avec... écoutez, je ne me souviens pas des mots exactement, mais c'est un peu l'image, vous savez, ce gentil général tellement jeune, tellement idéaliste, qui se réveille un matin et qui dit « Ces pauvres Égyptiens, cette pauvre Égypte, il faut quand même aller leur porter les lumières. » Ils sont arrivés, ils ont été reçus à bras ouverts, cet esprit bon enfant qui existait entre les soldats de la brave République... excusez-moi, mais je vous assure, je n'exagère pas. C'est peut-être pas les mots, mais c'est la mentalité. Je relis maintenant parce que, comme j'ai toujours adoré l'histoire, j'ai gardé mes livres d'histoire jusqu'à maintenant. Et quand je les lis et que je pense que je me considérais comme une élève intelligente, en récit enfin.
J'ai trouvé là même cette déclaration du général Menneux de 1800 qui va exactement dans son sens. Il dit : « Vous étiez malheureux, l'armée française est venue vous apporter le bonheur. »
Ah oui ! Oh oui ! Oh que oui ! Oh que oui ! Alors je pourrais lui répondre l'autre phrase que Vivant Denon a écrit dans son livre, que beaucoup de Français ont lu bizarrement en sautant ses pages. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est comme ça. Pas les Français seulement, je veux dire tous les lecteurs font ça. Moi-même, je fais ça, je saute certaines pages quand le livre m'ennuie. Et dire que nous étions venus en Égypte pour les soulager des malheurs des Mamelouks, et nous n'avons fait que les remplacer.
Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Oh qu'est-ce qui s'est passé? Mais
la brutalité d'une conquête?
C'est pas ça le problème, vous comprenez? Parce que les conquêtes, depuis qu'elles existent, ça n'a jamais été quelque chose de beau. Une guerre, quelle que soit, ou bien qu'elle soit une guerre propre comme maintenant, où l'aviateur appuie sur un bouton et il ne voit pas les massacres qu'il cause, depuis les pharaons matraquant sur nos bas-reliefs les têtes de leurs prisonniers. Écoutez, les guerres, ça n'a jamais été drôle, mais ce que je trouve un peu exagéré avec cette expédition d'Égypte, c'est un peu comme le loup et l'agneau. Bah, écoutez, vous m'excusez, mais un loup, Dieu l'a créé pour manger des agneaux. Je vois pas ce qu'on lui reproche à ce pauvre malheureux. Il ne peut manger que des agneaux. Mais pourquoi est-ce que ce loup-là, dans cette fable-là, est particulièrement odieux? Ce n'est pas parce qu'il va manger l'agneau. De toute façon, l'agneau a été fait pour servir de repas au loup. Mais c'est parce qu'en le mangeant, il tient à avoir raison. Il tient à faire œuvre de justicier. Si ce n'est pas toi, c'est ton frère. Si ce n'est pas ton frère, c'est ton père. Alors, qu'il le mange, il le mange. C'est la loi du plus fort, c'est la loi. On n'a pas besoin de lire le Marquis de Sade pour savoir que la nature, c'est ça. Ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça.
Mais il a besoin de justificatifs, de justification pour le faire.
Quoi. Nous faire répéter que ce brave général avec ses merveilleux soldats...
Et surtout ses savants.
Ah non, parlons pas de ceci.
Non, si, ils m'ont pitié.
Non, je vous assure, je les aime et j'ai pitié d'eux. J'ai vraiment, vous savez comment on les a maltraités? Si vous saviez comment l'armée française les traitait, hein, alors là, vous auriez pitié d'eux. D'autant plus que ces braves savants, ce sont de vrais encyclopédistes du XVIIIe siècle. Ils sont partis à l'aventure sans savoir même où ils allaient pour le bien de l'humanité, la science et tout ça. Je les comprends très bien. Et puis, ils débarquent en Égypte. Ah non, 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 pas question. Vous allez voir l'armée de quoi elle a besoin. Ils étaient obligés de travailler en cachette pour leur propre recherche à eux. Et quand rares étaient les officiers qui acceptaient ça, les soldats ne pouvaient pas les supporter parce qu'ils s'imaginaient que c'était eux la cause de leur difficulté de leur arrivée dans ce pays. On leur avait promis monts et merveilles après les opulentes femmes italiennes, la verdure de l'Italie et tout ça. On débarque dans un désert où les femmes sont voilées de la tête aux pieds. Alors, à tous les points de vue, c'est le jeûne, pire que le jeûne du Ramadan à tous les points de vue. Il n'y a pas de vin, il n'y a rien du tout. Alors, évidemment, les soldats, ils pensaient que c'était les savants et ils avaient pour eux un mépris royal parce qu'ils ne savaient pas utiliser les armes. Alors, dès qu'il y avait une attaque, et Dieu sait s'il y avait des attaques, on les mettait au milieu et les ânes étaient chargés des instruments. Alors, on disait les savants et les ânes au milieu. Ça, c'est le côté comique, mais alors le côté sérieux, mais je vous assure, à commencer, pas Napoléon quand même, pas Bonaparte, je ne devrais pas dire Napoléon, pas Bonaparte quand même, Kléber pas beaucoup, mais ce que Menou leur a fait payer, hein, et au moment du départ, ce qu'on leur a fait payer. Non, mais vraiment ceci, mais écoutez quand même, ceci c'est quoi? C'est 167 à côté de 38 000 soldats. Oui, mais... Alors on parle des savants. Et on oublie les 38 000 soldats, sans compter les marins. Hein.
Mais c'est vrai que dans la façon d'écrire l'histoire de l'expédition d'Égypte, les savants sont toujours mis en avant. Mais quand même, ils sont certes ridiculisés.
C'est ce qu'on m'a appris à l'école.
Bien sûr. Mais j'ai pris l'article 1 de la création, puisqu'ils vont créer un institut d'Égypte. Et l'article 1 est très clair. Il dit que cet institut est créé pour le progrès et la propagation des lumières en Égypte. Vous y croyez?
Moi, j'y crois beaucoup, seulement j'aimerais savoir comment. Parce que, vous comprenez, d'abord les lumières, il faut que j'explique ça à un public français, parce que j'ai toujours adoré ça. Dans notre dialecte égyptien, qui est très proche de la langue littéraire, quand quelqu'un vous apprend quelque chose, on lui répond que Dieu vous éclaire, que Dieu vous illumine. La religion islamique met la science et le savoir très haut, même si les musulmans ne le savent pas, c'est pas de la faute de l'islam. Mais il y a une très grande valeur qui est donnée à la science, au savoir. Et Rabbena inawar alik, quand quelqu'un m'apprend quelque chose, c'est les lumières. Alors, quand nous disons les lumières, en fait, qu'est-ce que nos lumières à nous ont à voir avec les lumières européennes? Ça, c'est une autre question. On pourrait faire tout un discours. Mais comment propager les lumières? Alors, vous avez une armée qui ne parle pas un mot de français. Trois ou quatre...
Un mot d'arabe.
Excusez-moi, je ne parle pas l'arabe, bien sûr, l'égyptien en plus. Trois ou quatre drogements qui traduisent à l'envers. Alors Bonaparte passe avec son cheval, les gens l'insultent, il dit qu'est-ce que c'est que ça, le drogement lui dit, il chante tes louanges. Bon, alors, il s'est fait rosser comme ça deux ou trois fois, le village tout entier a payé le prix en flambant femmes et enfants d'abord, évidemment. Mais alors, ce genre de drogman, quand il traduisait les ordres, les ulémas qui lisaient les ordres se moquaient du style avant de se moquer de ce qu'il y avait dedans. Bon, alors, pour propager les lumières, quand faut-il qu'il y ait un dialogue?
Un langage commun.
Ils viennent, alors si vous lisez la fameuse proclamation de Bonaparte qu'il présente au public égyptien, on est complètement ahuri parce que ce qu'il dit, qu'il amène, qu'il apporte à ce malheureux peuple égyptien écrasé par les Mamelouks, eh ben, c'est exactement ce qui se passait. Je veux dire que dans un pays où un esclave qui est un mamelouk peut être le maître du pays, on ne vient pas lui dire, vous les pauvres, vous serez les maîtres du pays. C'est ce qui se passe chez nous, puisque nos maîtres sont des esclaves. Alors il n'y a aucune raison pour que nous aussi nous atteignions ça. Qu'ils viennent leur dire pourquoi ils ont les meilleurs. Mais nos riches égyptiens, eux aussi, ont les plus beaux chevaux, les plus belles esclaves, etc. etc. Ils vous écrasent d'impôts. Il n'y avait pas un mois que les Français étaient là. Parce qu'après ça, on dit, ah oui, mais les pauvres, mais vous ne savez pas, parce que les Anglais à Aboukir, ils ont détruit la flotte, alors les Français ne peuvent plus avoir d'aide venant de... Ils étaient obligés de vivre sur le pays. 3 semaines après leur débarquement, avant que Nelson ne leur brûle leur navire, vous avez les lettres de Kléber, vous pouvez les lire, Henri Laurence les a publiées à l'IFAO. J'ai demandé à et il conclut sa lettre à Bonaparte, je doute que les Alexandrins aient vu un régime plus sévère avec les Mamelouks.
Donc, bon, là on est sur le fait historique. Est-ce que malgré tout, je vais peut-être un peu vous provoquer, mais est-ce que malgré tout il n'y a pas eu un certain nombre d'idées des Lumières qui sont passées? Par exemple, le fameux réformateur Mehmet Ali, est-ce qu'il aurait pu exister finalement sans cette intrusion militaire, sans cette conquête de Bonaparte?
Bon, alors pour... Je vais vous demander 3 choses. Le public est en français, il n'y a aucun problème, il peut lire Le Voyage en Orient de Gérard de Nerval, qui est arrivé en 1848 et qui a acquis sa relation. Il y verra ce que 48 ans ou 50 ans après Bonaparte, qu'est-ce qui est resté de l'expédition. Numéro 1. Numéro 2, il y a un jeune azhariste que nous considérons notre.
Azhariste, c'est quoi, vous pouvez nous dire?
C'est un étudiant, un jeune cheikh qui a fait ses études dans la mosquée religieuse de El Azhar, qui est l'université, la plus vieille université musulmane dans le monde, et qui est arrivé en 1827 à Paris, qui est resté 5 ans et qui est revenu, et qui était... Alors, il est né en 1801, c'est-à-dire qu'il est né l'année du départ des Français. Il était l'élève favori d'un autre cheikh que les Francidés ont considéré comme le réceptacle des Lumières amenées par l'armée française. Je ne sais pas pourquoi, mais il dit ça. Bon, quitte à savoir si c'est vrai ou pas, mais c'était Hassan el-Attar, que Bonaparte avait chargé d'enseigner l'arabe à des officiers. Je ne sais pas s'il leur a enseigné ou pas, mais en tous les cas, on dit que c'était leur élève. Il est devenu le recteur de cette université. Ce jeune homme était son élève préféré. Et quand Mohamed Ali a envoyé des boursiers en France, 1826-27, il l'a envoyé comme étant une sorte de... vous savez, le directeur religieux.
Directeur des consciences.
Oui. Directeur des consciences. Alors ce garçon était tellement brillant qu'il est devenu lui aussi étudiant à part entière et qu'il a été certainement celui qui a posé la première pierre de nos Lumières en Égypte.
Alors, c'est le fameux Tahtawi.
C'est le fameux Tahtawi. Alors, ce fameux Tahtawi, élève du très fameux Hassan el-Attar, élève encore plus fameux des Français et des Lumières, quand vous lisez sa relation, ses lettres philosophiques de Voltaire à propos de... Il n'y a pas un mot qui prouve qu'il sache quoi que ce soit des Français, ou de leur façon de penser, ou de leur façon d'écrire, et il raconte tout, il décrit tout. C'est quelqu'un qui vraiment débarque sur la planète Mars et qui décrit tout ce qu'il voit. Je vous dis, c'est un peu les lettres philosophiques de Voltaire par rapport à Londres, à cette différence près que Voltaire faisait la leçon aux Français qu'il avait menacé d'une bonne raclée. Tartawi, lui, n'avait pas ses raisons, et il faisait ça avec un esprit très pondéré, admirant certaines choses, refusant d'autres, mais certainement pas ébloui, non, très heureux, disant nous devrions imiter ça.
Européenne. Alors, il y a quand même des hommes qui s'appellent les Saint-Simoniens qui sont venus après, dans cette période de 1830. Donc, je vous vois sceptique, là, ils ont quand même joué un rôle, ces Saint-Simoniens.
Oui, ils ont joué un rôle.
Enfin, racontez-nous un peu cette histoire.
Ils sont merveilleux, ces Saint-Simoniens. Ils sont absolument merveilleux. Excusez-moi, je ne peux pas ne pas rire. Alors, l'Europe, c'est l'homme. Et l'Orient, c'est la femme. Évidemment, la femme, elle attend l'homme. Du moins à cet âge-là, parce que maintenant, nous n'attendons plus les femmes. Alors, l'Orient appelle l'homme, et c'est là-bas qu'il y a la femme, il y a la mère, et ils vont féconder la mère.
Et alors, c'est en Orient que va avoir, quand je pense à Saint-Simonien dans sa tombe, s'il avait entendu ça, bon, ça, c'est pas
les,
ça
les le discours, problème. Le fameux père enfantin.
Les autres aussi, parce que bon, alors ça c'est une société où on ne peut pas vivre seul, il faut s'entraider. Alors, entre autres, on doit porter les gilets avec des boutons en arrière, comme ça on ne peut pas les fermer tout seul, quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'entraide sociale, vous voyez comment, jusqu'où va l'entraide sociale. Mais c'est vrai, je ne l'invente pas. C'est écrit dans mon livre d'histoire, Malé Isaac, je ne me souviens plus.
Alors, figure un peu drôle, c'est Saint-Simonien, mais quand même, des figures comme Clobet, bon, je vois, notamment sur le. Je veux dire, je crois que le premier hôpital, le travail sur la vaccination.
Ne confondons pas Clobet avec les Saint-Simoniens. Je vais vous dire pourquoi. Les Saint-Simoniens, j'ai oublié leur démêlé, mais ils étaient sur le point d'être mis en prison en France. Alors, ils ont choisi l'exil. Ils ont entendu parler d'un de ces rois médiévaux en Orient qui s'appelle Mohammed Ali et qui utilise les Occidentaux. Et ils sont arrivés en Égypte. Et c'est à la quatrième demande que Mohammed Ali a accepté de les rencontrer. Inutile de vous dire que Mohammed Ali était un génie comme l'humanité en a rarement connu pour le bien et le malheur de cette propre humanité, mais enfin. En tous les cas, il n'avait pas vraiment besoin de beaucoup d'intelligence pour voir de quoi il en retournait. Et ils venaient proposer des projets, toutes leurs histoires d'Occident et d'Orient, un mariage mythique, etc., ou mystique. Et il les a très intelligemment dirigés vers ces travaux qu'il voulait, lui. Ah, vous êtes des ingénieurs, très bien.
Irrigation.
Je ne me souviens pas qu'est-ce que c'était ce projet qu'il voulait et qu'il a donné aux Anglais. Je ne me souviens pas très bien, c'était le premier projet qu'il... Mais c'est ce qui signifie, c'était que c'était un peu pour se débarrasser d'eux qu'il a accepté de leur donner, comme ingénieur mercenaire, de quoi bâtir des constructions qui servent son plan à lui, personnellement. Rien de ce qu'ils nous ont proposé n'a été accepté. Et une fois fini, ils sont partis ou il les a renvoyés. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils ont laissé, avec tout le respect que je dois à deux professeurs que je ne citerai pas, et qui racontent que bon, ils ont laissé monts et merveilles. Ça m'étonne, sur le plan idéologique. Alors, Claude B, c'est ce médecin qui a réussi à gagner les bonnes grâces de Mohammed Ali, qui en bon despote éclairé savait utiliser les compétences. On lui doit beaucoup de l'âge de Mohammed Ali. Et on lui doit surtout un livre qui est adorable, qui s'appelle... Regard sur l'Égypte, où il dit franchement qu'il a été très très jaloux du livre que Edward Lane avait écrit sur les coutumes égyptiennes, et alors il va l'aider. Et alors on voit Claude B racontant en 1840 l'expédition française, non pas du point de vue égyptien, non, ce sont nos soldats, ce sont nos armées, à quel point cette expédition n'avait le mot lumière que comme une plume dans leur chapeau, qu'en fait il n'y avait rien. C'est une expédition qui tentait essentiellement à transformer la Méditerranée en mer française, à occuper l'Égypte pour une expansion africaine et asiatique après ça, et que c'est notre malheur si cela n'a pas eu lieu. Mais il le dit franchement, honnêtement, sans aucun... Mais il n'y a pas l'ombre du mot lumière ou de quoi que ce soit qui fasse penser que cette expédition est eue autrement que cette poudre aux yeux. Bon, on écrit...
Donc, Leila Hannon, le passage des lumières à travers l'expédition de l'Égypte, c'est une mystification.
C'est une mystification, s'il en fut. C'est vraiment un fantasme devenu mythe. Seulement, je vous dis, on l'a tellement répété que c'est fini. On finit par le croire.
Mohamed Harkoun, ce projet des Lumières dans le monde méditerranéen qui vous est si cher?
Oui, les Lumières dans le monde méditerranéen dépendent, à mon avis, des orientations que l'Union européenne en particulier peut apporter de nouveau dans le passage des États-nations, de l'État historique de l'État-nation, avec tout ce que l'État-nation a produit dans la construction de soi, de la nation, avec des historiographies fondamentalement idéologisées, comme on vient d'en avoir un exemple, mais il y en a beaucoup, car dans toute formation de groupe social, communautaire ou national, il y a un rapport à son passé qui va à l'encontre de ce que nous appelons les lumières étant, toujours et dans toutes les cultures, l'effort justement de l'esprit pour aller plus loin, toujours plus loin, dans son émancipation. Et ces lumières-là tombent toujours dans les mains des acteurs sociaux. Et ces acteurs sociaux en font autre chose que ce que l'esprit initialement produit. On peut en avoir beaucoup d'exemples de cette sorte de loi, des lumières qui apparaissent et qui deviennent des outils de combat en vue d'établir des puissances, des hégémonies. Et philosophiquement parlant, dans toutes les cultures, je crois que nous devons accepter la réalité humaine telle qu'elle est. Elle travaille à la fois pour la recherche de la puissance et pour son émancipation de cette puissance en essayant de produire des lumières.
Eh bien, merci.